Chapitre 6. La belle heure des noces. Ne serait-ce pas ici le lieu de citer cet épithalame sombre que Marchais Noir écrivait plusieurs années avant d'être l'un des témoins de Clotilde à son mariage, et qui dut alors lui revenir bien étrangement. Vous vous souviendrez, ma belle, quand les convives du festin des noces auront disparu, et que vous serez seule avec votre époux, n'est-ce pas, vous vous souviendrez peut-être de cet invité mystérieux qui n'avait pas la robe nuptiale et qui fut jeté dans les ténèbres extérieures. Les pleurs et le grincement des dents du misérable étaient si forts qu'on les entendait à travers le mur et que les portes lamées de bronze tremblaient sur leurs gonds comme si une rafale puissante les eût assiégés. Vous ne savez pas qui était cet individu, et je ne le sais pas plus que vous, en vérité. Cependant, il me sembla que sa plainte remplissait la terre. Une minute, je vous le jure, une certaine minute, j'ai pensé que c'était là le gémissement de tous les captifs, de tous les exclus, de tous ceux qu'on abandonne, car tel est l'accompagnement nécessaire de la joie d'une épousée. L'espèce humaine est si désignée pour souffrir que la permission donnée à un seul couple d'être heureux, une heure, n'est pas trop payée du cri d'agonie d'un monde. Mais voici que votre maître, grelottant et pâle de désir, vous prend dans ses bras. Quelque chose d'infiniment délicieux, je le suppose du moins, va s'accomplir. Jetez un dernier regard sur la pendule, et si c'est en votre pouvoir, priez Dieu qu'il éloigne de vous le mauvais ange des statistiques. Une minute vient de s'écouler. Cela fait environ 100 morts et 100 nouveau-nés de plus. Une centaine de vagissements et une centaine de derniers soupirs. Le calcul est fait depuis longtemps. Le compte est exact. C'est la balance du grouillement de l'humanité. Dans une heure, il y aura 6 000 cadavres sous votre lit, et 6 000 petits-enfants tout autour de vous pleureront par terre ou dans des berceaux. Or, cela n'est rien. Il y a la multitude infinie de ceux qui ne sont plus à naître et qui n'ont pas encore assez souffert pour mourir. Il y a ceux qu'on écorche vivants, qu'on coupe en morceaux, qu'on brûle à petit feu, qu'on crucifie, qu'on flagelle, qu'on écartèle, qu'on tenaille, qu'on empale, qu'on assomme ou qu'on étrangle. En Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Sans parler de notre Europe délectable, dans les forêts, dans les cavernes, dans les bagnes ou les hôpitaux du monde entier. Au moment même où vous bêlerez de volupté, des grabataires ou des suppliciés dont il serait puéril d'entendre le dénombrement hurleront comme en enfer sous la dent de vos péchés. Vous m'entendez bien? De vos péchés? Car voici ce que vous ne savez certainement pas, aimable fantôme. Chaque être formé à la ressemblance du Dieu vivant a une clientèle inconnue dont il est à la fois le créancier et le débiteur. Quand cet être souffre, il paie la joie d'un grand nombre. Mais quand il jouit dans sa chair coupable, il faut indispensablement que les autres assument sa peine. Fussiez-vous idiote, ce que je refuse de croire, vous êtes néanmoins une créature si précieuse que c'est tout juste peut-être si le saignement de 10 000 cœurs suffira pour vous assurer cette heure d'ivresse. Cœur de père, cœur de mère, cœur d'orphelin, cœur d'opprimé et de pourchassé, cœur déchiré, percé, broyé, cœur qui tombe au désespoir comme des meules dans un gouffre. Tout cela, c'est pour vous seul. Votre jubilation est à ce prix. Sans que vous le sachiez, une armée d'esclaves travaille pour vous dans les ténèbres. À la façon de ces damnés qui fouillent le sol, au fond des puits noirs de la Belgique ou de l'Angleterre. Tenez, en voilà un précisément qui était sur le dos, comme vous-même en cet instant, non pas dans des draps de dentelle, mais dans la boue. Monsieur votre père a tant fait la noce que ce vermisseau est peut-être un de vos frères, qui sait. Il piquait au-dessus de sa tête pour détacher une de ces gemmes sombres et profitables qui font si tiède votre alcôve. Un bloc de houille est tombé sur lui, et voilà que son âme est devant Dieu. Sa pauvre âme aveugle. Le moment serait mal choisi, j'en conviens, pour réciter un De Profundis. J'aurais sans doute peu de chance d'être écouté si je vous parlais du monde invisible, du vaste monde silencieux et impalpable qui est sans caresse et sans baiser. Celui-là intéresse peut-être quelque chartreux en prière ou quelque agonisant, mais il est au moins superflu de le rappeler à deux chrétiens dont la digestion est heureuse et qui se pétrissent avec ardeur. Miserere mini mei, miserere mini mei, saltem vos amici mei. Ah, ils peuvent crier, les défunts qui souffrent, les trépassés pour qui nul ne prie, leur clameur immense qui secoue les tabernacles du ciel, vibre moins dans notre atmosphère que les pénules d'un moucheron ou la quenouille d'une araignée filandière. Encore une étreinte, mon bien-aimé, s'il te reste quelque vigueur. Oh, la belle heure, la belle nuit des noces, et comme elle fait penser à ces épousailles de la fin des fins, lorsqu'après le congédiement des mondes et des jours, l'agneau de Dieu vêtu de sa pourpre viendra au-devant de l'épouse inimaginable. Je sais bien, vous allez me dire, que la vie serait impossible si on pensait continuellement toutes ces choses, et qu'il n'y aurait plus une minute pour le bonheur. Je ne dis pas non. Cela dépend de ce que vous appelez bonheur. Le sacrement, je ne l'ignore pas, vous concède la permission de jouir de votre mari, et il serait téméraire de prétendre que l'acte par lequel vous allez peut-être concevoir un fils n'importe pas à la translation des globes. Je ne prétends rien, ô héritière de l'éternité, sinon de vous suggérer une aperception telle quelle de l'heure qui passe. L'heure qui passe, voyez-vous ce défilé de 60 minutes frêle au talon d'airain dont chacune écrase la terre? Le recueillement de votre chambre nuptiale, savez-vous de quoi il est fait? Je vais vous le dire. Il est fait de plusieurs milliards de cris lamentables, si prodigieusement simultanés et à l'unisson, par chaque seconde qu'ils se neutralisent d'une manière absolue et que cela équivaut à l'inscrutable silence. En d'autres termes, c'est l'occasion sans cesse renouvelée pour votre Sauveur, perpétuellement en croix, de proférer ce Lama Sabachthani, qui ramasse et concentre en lui tout gémissement, tout abandon, toute angoisse humaine, et que seul peut ouïr du fond de l'impassibilité sans commencement ni fin, notre Père qui est dans les cieux. Chapitre 7. Les trois premières années de mariage furent heureuses, au-delà de ce qui peut être dit ou chanté sur les instruments ordinaires. Léopold et Clotilde se fondirent tellement l'un dans l'autre qu'ils parurent n'avoir plus de personnalité distincte. Une joie mélancolique, surnaturellement douce et calme, arrivait chaque matin, pour eux seuls, d'une contrée fort inconnue. Laissant à leur porte toutes les poussières des chemins, toutes les rosées des bois ou des plaines, tous les arômes des monts lointains, elle les éveillait gravement pour le travail et le poids du jour. L'âme de chacun d'eux frémissait alors, toute lumineuse, dans le regard de l'autre, comme on voit frémir un éphémère dans un rayon d'or. Félicité silencieuse, quasi monastique, à force de profondeur. Qu'aurait-il pu se dire, et à quoi bon? Il ne voyait presque personne. Marche Noire, décidément, livrait sa dernière bataille à une misère enragée de sa résistance de tant d'années, et qui, après bien des mois d'une lutte épouvantable, devait l'assassiner par trahison au bord d'un torrent dont les vingues puantis roulaient les monstres qu'il avait vaincus. Il venait les voir quelquefois, sillonnés de coups de foudre, pâles et conspués, la tête blanchie par l'écume des cataractes de la turpitude contemporaine, mais plus impavide, plus indompté, plus invaincu et remplissant la demeure tranquille des mugissements de sa colère. « Pierre a de nouveau renié son maître !» criait le prophète au lendemain de l'expulsion des communautés religieuses. Pierre, qui se chauffe dans le vestibule de Dieu et qui est assis en pleine lumière, ne veut rien savoir de Jésus quand la servante l'interroge. Il a trop peur qu'on le soufflette lui aussi et qu'on lui crache au visage. Combien en faudra-t-il encore de ces reniements pour que se décide enfin à chanter le coq de France? Car c'est la France qui est désignée par le texte saint, la France dont le paraclet a besoin, la France où il se promène comme dans son jardin, et qui est la figure la plus expressive du royaume des cieux, la France réservée quand même et toujours aimée par-dessus les autres nations, précisément parce qu'elle paraît être la plus déchue et que l'esprit vagabond ne résiste pas aux prostituées. Ah, si ce pape, qui ne sait pas mieux que les vils accommodements de la politique, avait l'âme des Grégoire ou des Innocents, que ce serait beau! Voyez-vous Léon XIII jetant l'interdit sur les 80 diocèses de France, un interdit absolu, Omni appellatione remota, jusqu'à l'heure où tout ce grand peuple sanglotant demanderait grâce. Entendez-vous, à minuit, le glas de ces cloches qui ne tinteront plus désormais? Le cardinal archevêque, accompagné de son clergé, pénètre silencieusement dans la cathédrale. D'une voix lugubre, les chanoines psalmodient pour la dernière fois le Miserere. Un voile noir cache le Christ. Les reliques des saints ont été transportées dans les souterrains. Les flammes ont consumé les derniers restes du pain sacré. Alors le légat, couvert de l'étole violette, comme au jour de la passion du Rédempteur, prononce à voix haute, au nom de Jésus-Christ, l'interdit sur la République française. À partir de ce moment, plus de messe, plus de corps ni de sang du Fils de Dieu, plus de chants solennels, plus de bénédictions. Les images des martyrs et des confesseurs ont été couchées par terre. On cessera d'instruire le peuple, de proclamer les vérités du salut. Des pierres jetées du haut de la chaire, peu avant qu'on ferme les portes, avertissent la multitude qu'ainsi le Tout-Puissant la repousse de sa présence. Plus de baptême, sinon à la hâte et dans les ténèbres sans cierge ni fleur. Plus de mariage, à moins que l'union ne soit consacrée sur des tombeaux. Plus d'absolution, plus d'extrême onction, plus de sépulture. Je vous dis que la France ne pousserait qu'un cri, mourante de peur. Elle comprendrait qu'on lui arrache les entrailles. Elle se réveillerait de ses abominations comme d'un cauchemar. Et le cantique de pénitence du vieux coq des Gaules ressusciterait l'univers. Les deux amis versaient l'huile et le vin de leur paix parfaite sur les plaies horribles de cet égorgé qui parlait en les bénissant. Clotilde l'embrassait comme un frère, et Léopold, très peu riche, le secourait de quelque argent. Ah, il aurait bien voulu le retirer de cet inégal et mortel combat dont il prévoyait le dénouement. Mais que faire? Il sentait que les considérants ordinaires sont sans valeur pour juger un être si exceptionnel, et il était trop en dehors de sa voie pour s'associer à son destin. Un jour, l'une des dernières fois qu'ils se virent, Marchenoir lui dit « Nul ne peut me sauver. Dieu lui-même, par égard pour les quartiers pauvres de son ciel, ne doit pas permettre qu'on me sauve. Il est nécessaire que je périsse dans la sorte d'ignominie dévolue aux blasphémateurs des dieux avares et des dieux impurs. J'entrerai dans le paradis avec une couronne d'étrons. Paroles étonnantes qui le racontaient tout entier, ce grandiloque de boue et de flamme, et que, seul au monde, sans doute, il était capable de proférer. Une chose à remarquer, c'était que Léopold, aussitôt après son mariage, avait subi des transformations incroyables. Ses allures, ses attitudes, son visage même s'étaient modifiés. Il était entré dans la vie conjugale comme un corsaire gorgé de butin dans la boutique d'un changeur. Il avait versé là tout son bagage de monnaies étrangères et disparates, les unes tachées de rouille, les autres teintes de sang, et on lui avait donné, en retour, la quantité d'or que cela représentait, un petit fleuve d'or très pur qui ne reflétait qu'une seule image. Par un besoin passionné de se configurer à sa femme, sans doute aussi par l'effet de quelque débâcle intérieure dont elle avait été l'occasion, il avait adopté spontanément les pratiques pieuses de cette vigilante du Livre Saint, à la lampe toujours allumée, et peu à peu était devenu un homme de raison. S'en étonnera qui voudra, ou qui pourra. Léopold était surtout un soldat, de l'espèce de ceux qu'on ne peut pas tuer. Il faut alors que Dieu s'en charge lui-même, et il les expédie à sa manière. Chapitre 8. À sa manière, assurément ce n'était pas une manière humaine, et le mot « miracle » aurait pu être employé sans extravagance. Léopold avait été extrêmement loin de tout cela. Il est vrai que la hauteur de son caractère ne l'avait pas moins éloigné de l'antichambre ou de l'écurie du scepticisme. Il croyait, naturellement, spontanément, sans induction, comme tous les êtres faits pour commander. Son admiration sans réserve pour Marchenoir eût été d'ailleurs inexplicable autrement. Mais les passions furieuses, qui avaient fait de lui dès l'adolescence leur château fort, n'avaient eu qu'à se montrer au créneau de sa formidable face pour mettre en fuite les velléités de recueillement ou de componction qui auraient tenté de s'approcher. Délivré par Clotilde, en une seule fois, de tout ce qui pouvait faire obstacle à Dieu, il n'avait eu qu'à laisser toute grande ouverte la porte si longtemps fermée, par où cette victorieuse était entrée dans son cœur. Alors tout ce qui peut liquéfier le bronze des vieilles idoles s'était précipité derrière elle. Il racontait que le saint pape Deus Dedit guérit un lépreux en lui donnant un baiser. Clotilde avait renouvelé le prodige, avec cette différence qu'elle-même avait été guérie en même temps que son lépreux, et que désormais ils n'avaient pas mieux à faire l'un et l'autre que de rendre grâce à n'en plus finir dans la pénombre d'une petite chapelle d'amour attiédie par une verrière de pourpre et d'or où la passion du Christ était peinte. De même qu'au sacrement des malades, mais les signes du corps et de l'âme, dit le rituel, Léopold, béni par le prêtre, juxta ritum sancte matris ecclesiae, avait été visité dans tous ses sens, touché comme d'une onction sur ses yeux cruels qui n'avaient pas vu la face de pardon, sur ses oreilles inattentives qui n'avaient pas entendu les gémissements de l'Esprit-Saint, sur ses narines de bête féroce qui n'avaient pas odoré les fragrances de la volupté divine, sur le sépulcre de sa bouche qui n'avait pas mangé le pain vivant, sur ses mains violentes qui n'avaient pas aidé à porter la croix du Seigneur, sur ses pieds impatients qui avaient marché partout, excepté vers le saint tombeau. Le mot, d'ailleurs si prostitué, de « conversion » appliqué à lui n'exprimait pas bien sa catastrophe. Il avait été pris à la gorge par quelqu'un de plus fort que lui, emporté dans une maison de feu. On lui avait arraché l'âme et broyé les os. On l'avait écorché, trépané, brûlé. On avait fait de lui un mastic, une espèce de chose argileuse qu'un ouvrier, doux comme la lumière, avait repétri. Ensuite, on l'avait jeté, la tête en avant, dans un vieux confessionnal dont les planches avaient craqué sous son poids. Et tout cela s'était accompli dans un même instant. Des splendeurs inconnues, la lumière des yeux de Jésus, des voix prodigieuses, des harmonies qui n'ont pas de nom, a dit Ruysbroeck l'admirable. La littérature et l'art n'avaient été pour rien dans cette escalade. Ah non, par exemple, Léopold n'était pas de l'école des rares qui découvrent tout à coup le catholicisme dans un vitrail ou dans un heume du plein champ et qui vont, comme Follentin, se documenter à la trappe sur l'esthétique de la prière et le galbe du renoncement. Il ne disait pas, à l'instar de cet imbécile, qu'un service funèbre a plus de grandeur qu'une messe nuptiale, persuadé jusqu'aux plus intimes de sa raison que toutes les formes de la liturgie sont également saintes et redoutables. Il ne pensait pas non plus qu'une architecture spéciale fût indispensable aux élans de la dévotion, et ne songeait pas une minute à se demander s'il était sous un plein cintre ou sous un tiers-point quand il s'agenouillait devant un autel. Il croyait même, avec Marche Noire, que l'art n'avait pas le plus petit mot à dire aussitôt que Dieu se manifestait. Et sa pente naturelle était dans le sens de l'humilité profonde, ainsi qu'on a pu le vérifier historiquement chez la plupart des hommes d'action organisés pour le despotisme. Chapitre 9. La naissance longtemps attendue d'un fils fut un événement plus considérable que l'abolition définitive de la durée pour ces deux buveurs d'extase. Ils se crurent mariés depuis quelques heures seulement et se tenèrent d'avoir ignoré l'amour. Un gouffre nouveau s'ouvrit au fond de leur double abîme, qu'ils pensaient être cousin germain des concavités du firmament. Il faut laisser la monographie de telles ivresses aux jeunes bonshommes en condition littéraire, dont c'est l'office de divulguer impuissamment l'âme humaine à des macros inattentifs. Ces deux êtres, plus grands à coup sûr qu'il n'est permis dans une société postérieure à tant de déluges, apparurent tout à coup privés d'haleine et pâles de sollicitude penchés sur un petit pauvre. Ils le nommèrent Lazare, du nom de ce druide qu'on a déjà vu et que Léopold choisit pour parrain, de préférence à Marche Noire, qui lui paraissait tout de même un arbre bien sombre pour abriter un berceau. Clotilde, en vraie fille d'un peuple autrefois chrétien, ne voulut pas entendre parler de nourrice, intuitivement assurée que les mercenaires donnent, en même temps que leur lait, un peu de leurs âmes obscures ou contaminées aux innocents qu'on leur abandonne, quand elles ont la bonté de ne pas les faire mourir. Le petit Lazare, exceptionnellement vigoureux et beau, fut une fleur éclatante sur le sein de sa mère, et Léopold, qui aimait à travailler auprès d'eux, se persuada qu'un reflet infiniment doux de quelque clarté inconnue émanait de cette présence et se répandait sur sa peinture comme un duvet de lumière. Les œuvres du grand artiste à cette époque de sa vie, ses dernières œuvres, hélas, ont la marque de cette péripétie sentimentale où disparurent les teintes violentes, les heurts farouches des tons, les séditions brusques de la couleur qui donnaient à ses enluminures plus qu'étranges une originalité si forte. Peu à peu, tout se fondit, s'éteignit, dans une espèce d'aquatinte pâteuse que délimitait un raide contour. Druide, un certain soir, se détourna d'une feuille que l'infortuné plaçait devant lui. feignit un étourdissement et regarda Clotilde avec des yeux si hagards qu'elle comprit que le malheur frappait à leur porte. Léopold devenait aveugle. Du moins, il était menacé de le devenir. Quelque temps auparavant, forcé de travailler une nuit, il avait tout à coup cessé de voir, comme si les deux grosses lampes qui l'éclairaient s'étaient brusquement éteintes. Attribuant le phénomène à un excès de fatigue, il s'était couché à tâtons et, le matin, la clairvoyance revenue, s'était borné à en parler avec insouciance, affectant de croire que c'était une chose très simple qui ne valait pas qu'on s'en mît en peine. Silencieusement, Clotilde se prépara à souffrir. Bientôt, en effet, les troubles reparurent. Un spécialiste consulté prononça que tout travail d'enluminure devait être interrompu, qu'il fallait même y renoncer absolument sous peine de cécité. Ce fut un très rude coup. Léopold aimait passionnément son art, cet art qu'il avait créé, ressuscité, qu'il avait forcé de reparaître vivant et jeune quand on le croyait si mort que le souvenir même s'en effaçait. Elle était tellement à lui, cette peinture qui remontait l'escalier des siècles et qui ressemblait aux rêves d'un enfant profond. Qu'allait-il faire maintenant? Depuis plusieurs années, il ne subsistait que de son pinceau et n'avait jamais songé une minute à réaliser des économies. Ah oui, des économies. Les puissances inférieures, les salopes et implacables puissances dont se prévaut contre les cœurs solitaires l'identique bassesse du nombre, ne pardonnent pas. Elles ont des représailles sûres et mortelles. Léopold, cessant de peindre, la misère se jeta sur lui, comme les bêtes gluantes sur un beau fruit mûr que le vent a détaché de sa tige. Il fallut presque immédiatement chercher quelque autre moyen de vivre. Les démarches affreuses commencèrent, plus de recueillement, plus de paix hérémétique. C'en était fait de la tente de velours bleu pâle dans la clairière silencieuse où l'émeraude et le corail d'une végétation de livres d'heures se profilaient avec une tendresse mélancolique sur l'or d'un ciel byzantin. Tout cela, c'était fini pour jamais. Il fallut se noyer l'âme dans les malpropres soucis d'argent, dans la purulence des égoïsmes sollicités, dans le cloaque des poignées de main. Les anciennes façons de gentilhomme écumeur de cet indiscipliné, qui, naguère, semblait toujours parler à ses contemporains avec des pincettes, n'avaient pu lui faire un nombre considérable d'amis. Quand on le vit par terre, ce fut la curée des sourires, des condoléances venimeuses. Sans doute, ses allures s'étaient modifiées d'une manière qui pouvait passer pour miraculeuse depuis qu'il était heureux. Mais il avait du même coup tellement disparu qu'on ne s'en doutait guère. D'ailleurs, il était avantagé, ainsi que la plupart des individus célèbres, d'une légende spéciale, espèce d'eau forte si énergiquement mordue par l'envie qu'aucune transfiguration ou métamorphose de l'original n'est capable de l'altérer. D'un autre côté, son mariage avait scandalisé les oiseaux pourris ou les poissons recommandés par le vomito negro qui promulgue à Paris les décrets d'un monde puant dont la vieille morale, expulsée avec horreur des plus basses boutiques de prostitution, cherche sa vie dans les ordures. On lui avait attribué les restes du malheureux Gacugnol, quelques facéties agréables dans le goût de la sauce Léopold, avait même agrémenté la chronicaille de divers journaux que ne lisait pas le solitaire. Fort heureusement pour les turlupins qui tremblaient dans leurs culottes, bien qu'ils se dissimulassent avec attention sous des coquillages d'emprunt. Le ménage connut les expédients qui font frémir et qui font pleurer, la vente successive des objets aimés dont on croyait ne pouvoir jamais se séparer, le changement de certaines habitudes qui semblent adhérer au principe même de la puissance affective, la suppression graduelle et si douloureuse de toutes les barrières de la vie intime et cachée que ne réalisent jamais les pauvres. Surtout, il fallut déménager. Oh, ceci fut le plus dur. Leur jolie ruche paisible et claire aux environs du Luxembourg était pour Léopold et Clotilde le lieu unique, l'endroit privilégié, la seule adresse qu'ils eussent donnée au bonheur. Ils l'avaient meublé de leurs émotions d'amour, de leurs espérances, de leurs rêves, de leurs prières. Même les souvenirs lugubres n'en avaient pas été écartés. Atténués, fil à fil, par une bénédiction venue si tard, les tristesses d'autrefois s'y entrelaçaient avec les joies neuves, comme des figures de songe qu'une tapisserie aux couleurs éteintes aurait fait flotter sur les murs. Puis, leur enfant était né là. Il y avait vécu 11 mois pendant lesquels avait recommencé la tribulation, et son image de merci était pour eux dans tous les coins. Au moment d'abandonner cette retraite, les malheureux se crurent exilés de la paix divine. Arrachement d'autant plus cruel que le nouveau gîte où les transplanta la nécessité leur parut sinistre. L'ayant visité par un tiède soleil de fin d'automne, ils l'avaient jugé habitable. Mais la pluie froide et le ciel noir du jour de l'installation le transformèrent à leurs yeux épouvantés en une sorte de taudion humide, sombre et vénéneux qu'il leur fit horreur. C'était un pavillon minuscule au fond d'une impasse du petit Mont-Rouge. Ils l'avaient loué en haine des petits appartements, espérant échapper ainsi aux promiscuités ignobles des maisons de rapport. 3 ou 4 autres bicoques du même genre, habités on ne savait par quel saturnien ou calamiteux employé, exhibaient à la distance de quelques mètres leurs hypocondres façades badigeonnées d'un lait de chaux aveuglant et séparées les unes des autres par une végétation poussiéreuse de cimetières suburbains qu'on put en tirer le voisinage d'une gare de marchandises ou d'une fabrique de chandelles. Espèce de petite cité bourgeoise à prétention de jardin, comme il s'en trouve dans les quartiers excentriques où d'homicides propriétaires tendent le traquenard de l'horticulture à des condamnés à mort. Ceux-ci furent accueillis dès le seuil par tous les frissons. Clotilde, grelottante et consternée, roula aussitôt son petit Lazare dans un amas de couvertures et de châles, ne songeant qu'à le préserver de l'humidité glaciale, singulière, et attendit avec une angoisse jusqu'alors inconnue que les déménageurs eussent fini. Hélas, il ne devait jamais finir. En ce sens que, jusqu'au dernier instant de sa vie, la pauvre femme devait garder l'impression actuelle du désordre triste et banal de ces quelques heures. Chapitre 10. Le malheur est une larve accroupie dans les lieux humides. Les deux bannis de la joie crurent flotter dans des limbes de viscosité et de crépuscule. Le feu le plus ardent ne parvenait pas à sécher les murs, plus froids à l'intérieur qu'au dehors, comme dans les cachots ou les sépulcres, et sur lesquels pourrissait un papier horrible. D'une petite cave haineuse que n'avait certainement jamais élu la générosité d'aucun vin, parurent monter au commencement de la nuit des choses noires, des fourmis de ténèbres qui se répandaient dans les fentes et le long des joints d'un géographique parquet. L'évidence d'une saleté monstrueuse éclata. Cette maison, illusoirement lessivée de quelques seaux d'eau quand elle attendait des visiteurs, était en réalité gluante, à peu près partout, dont ne savait quel sédiment redoutable qu'il aurait fallu racler avec un labeur sans fin. La gorgone du vomissement était accroupie dans la cuisine que l'incendie seul eût été capable de purifier. Dès la première heure, il avait fallu installer un fourneau dans une autre pièce. Au fond du jardin, de quel jardin, persévérait un amas de détritus effrayants que le propriétaire avait promis de faire enlever et qui ne devait jamais disparaître. Enfin, tout à coup, l'abomination. Une odeur indéfinissable, tenant le milieu entre le remugle d'un souterrain approvisionné de charogne et la touffeur alcaline d'une fosse d'aisance, vint sournoisement attaquer la muqueuse des locataires au désespoir. Cette odeur ne sortait pas précisément des latrines, à peu près impraticables d'ailleurs, ni d'aucun autre point déterminé. Elle rampait dans l'étroit espace qui s'y déroulait à la manière d'un ruban de fumée, décrivant des cercles, des ovres, des spirales, des lacets. Elle ondulait autour des meubles, montait au plafond, redescendait le long des portes, s'évadait dans l'escalier, rôdait d'une chambre à l'autre, laissant partout comme une buée de putréfaction et d'ordure. Quelquefois, elle semblait disparaître. Alors on la retrouvait au jardin. Dans ce jardin des bords de Cossite, clos d'un mur de bagne, capable d'inspirer la monomanie de l'évasion à un derviche bancal devenu écarisseur de chameaux atteint de la peste. Ce que fut pour les naufragés l'existence des premiers jours, il n'y a que l'ange préposé à la flagellation des âmes qui pourrait le dire. La puanteur est un fourrier qui court en avant les larves cruelles quand il leur est permis de remonter du fond de l'abîme, et la peur froide l'accompagne. Certaines circonstances trop affreuses pour n'être pas réelles, et d'ailleurs promptement suivies de quelles rafales d'horreur, ne permirent pas à Clotilde d'abord, et à son mari ensuite, de douter qu'ils ne fussent tombés, pour la trempe surnaturelle de leur courage, dans un de ces lieux maudits que ne désigne comme tel aucun cadastre fiscal, où l'ennemi des hommes prend son délice et se met à califourchon. Le petit Lazare, paraissant indisposé depuis le désarroi funèbre de l'emménagement, sa mère dormait seule, près de lui, dans une chambre du rez-de-chaussée qu'on avait trouvée un peu moins sinistre que les autres. Léopold fermait avec soin toutes les issues et gagnait une cellule fétide à l'étage supérieur. Dès la seconde nuit, Clotilde fut arrachée au sommeil par des coups d'une violence extrême, frappés à la porte extérieure comme si quelque malfaiteur essayait de l'enfoncer. L'enfant dormait, et le père, dont elle crut entendre de loin la respiration égale et sonore, ne semblait pas avoir été troublé. Le vacarme avait donc été pour elle seule. Glacée de terreur et n'osant bouger, elle invoqua les âmes pieuses des morts qu'on dit puissantes pour écarter les sombres esprits. Le lendemain, elle n'en parla pas. Mais il lui resta de cette première visitation de l'épouvante une anxiété lourde, une transe de catacombe dont elle eut le cœur crispé. D'analogues avertissements lui furent donnés les nuits suivantes. Elle entendit une voix panique hurlant à la mort. Des heurts mystérieux d'impatience et de colère firent sonner les cloisons et jusqu'au bois de son lit. Affolée, hagarde, ayant la sensation d'une griffe dans ses cheveux, mais craignant de partager ce hors-d'œuvre d'agonie avec son malheureux homme, elle fit venir un prêtre de la paroisse pour bénir la maison. Pax huic domui et omnibus habitantibus inea. Seigneur, tu m'arroseras avec l'hysope et je serai nette, tu me laveras et je serai blanchi plus que la neige. Exauce-nous, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, éternel Dieu, et de tes cieux daigne envoyer ton Saint-Ange pour qu'il garde, réchauffe dans son sein, protège, visite et défende ceux qui résident dans cet habitacle. Par le Christ notre Seigneur. La nuit qui vint sur cette bénédiction fut paisible. Mais celle d'après, ah, Jésus très obéissant qui sortit de la mort et du tombeau, quelle épouvantable nuit! Un cri inhumain, un croassement de suppliciés par les démons, mit la pauvre femme sur son séant, yeux dilatés, dents claquantes, membres disloqués par le tremblement et cœur poussé, comme le battant d'une cloche d'alarme, contre les parois de ce flanc qui avait porté un enfant de Dieu. Elle se jeta au berceau de son fils. L'innocent n'avait pas cessé de dormir, et la clarté pâle de la veilleuse le montrait si pâle qu'elle chercha son souffle. Elle fut alors frappée de cette circonstance qu'il dormait trop depuis une semaine, qu'il dormait presque continuellement, et qu'il avait toujours froid aux pieds. Comprimant une crise de sanglots, elle le prit très doucement dans ses bras et le porta près du feu. Quelle heure pouvait-il être? Elle ne le sut jamais. Il pleuvait un silence énorme, un de ces silences qui font perceptible la rumeur des petites cataractes artérielles. L'enfant exhale une plainte faible. La mère, ayant essayé vainement de le faire boire, il s'agite, paraît soudain tout égaré, jette ses bras mignons contre l'invisible, à la manière des puissants qui meurent, et commence le râle de son agonie. Clotilde, comblée d'effroi, mais ne comprenant pas encore que c'est la fin, met la tête du cher souffrant sur son épaule, dans une position qui l'a plus d'une fois calmée, et se promène longtemps en larmes, le suppliant de ne pas la quitter, appelant à son secours les vierges martyres à qui les lions ou les crocodiles mangeaient les entrailles pour l'amusement de la populace. Elle voudrait bien la présence de son mari, mais elle n'ose élever la voix, et l'escalier est si difficile dans les ténèbres, surtout avec un pareil fardeau. À la fin, le petit être tombe de son cou sur son sein, et elle comprend. Léopold, notre enfant meurt, crie-t-elle d'une voix terrible. Celui-ci a dit plus tard que cette clameur l'avait atteint dans son sommeil, comme un bloc de marbre atteint le plongeur au fond d'un gouffre. Accouru tel un projectile, il n'eut que le temps de recueillir le dernier frisson de cette commençante vie, le dernier regard sans lumière de ses yeux charmants, dont l'azur clair se faïença, s'émailla d'une vitre laiteuse qui les éteignit. En présence de la mort d'un petit enfant, l'art et la poésie ressemblent vraiment à de très grandes misères. Quelques rêveurs, qui paraissaient eux-mêmes aussi grands que toute la misère du monde, firent ce qu'ils purent. Mais les gémissements des mères, et plus encore la houle silencieuse de la poitrine des pères, ont une bien autre puissance que les mots ou les couleurs, tellement la peine de l'homme appartient au monde invisible. Ce n'est pas exactement le contact de la mort qui fait tant souffrir, puisque cette punition a été si sanctifiée par celui qui s'est appelé la vie. C'est toute la joie passée qui se lève et gronde comme un tigre, qui se déchaîne comme l'ouragan. C'est, en une manière plus précise, le souvenir magnifique et désolant de la vue de Dieu, car tous les peuples sont idolâtres, vous l'avez beaucoup dit, ô Seigneur. Vos tristes images ne savent adorer que ce qu'elles croient voir, depuis si longtemps qu'elles ne vous voient plus. Et leurs enfants sont pour elles le paradis de volupté. Or, il n'y a pas d'autre douleur que celle qui est racontée dans votre livre. In capite libri scriptum est de me. On a beau chercher, on ne trouvera pas une souffrance hors du cercle de feu de la tournoyante épée qui garde le jardin perdu. Toute affliction du corps ou de l'âme est un mal d'exil, et la pitié déchirante, la compassion dévastatrice inclinée sur les tout petits cercueils, est sans doute ce qui rappelle avec le plus d'énergie le bannissement célèbre dont l'humanité sans innocence n'a jamais pu se consoler.